Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Stéphane Dietrich.
C'est une enquête hors norme qui a tenu toute une région en haleine pendant 20 ans. 20 longues années avant que le coupable ne soit identifié grâce à un incroyable rebondissement. Tout commence à l'été 1994. Stéphane Dietrich a 24 ans et tout lui sourit. Il vient de finir des études brillantes et il s'apprête à prendre des vacances bien méritées. Mais son corps, à moitié dénudé, est retrouvé lardé de coups de couteau dans une forêt près de Belfort. Que s'est-il passé ? Qui en voulait à cet étudiant modèle et discret ? Les enquêteurs vont découvrir avec stupeur que depuis le départ, l'assassin était là, juste sous leurs yeux. Siège de la police judiciaire de Besançon, le 15 décembre 2015. Il est 10h lorsqu'un homme se présente à l'accueil du commissariat. Il semble nerveux et inquiet. Dès son arrivée, il est placé en garde à vue. Face à lui, 3 enquêteurs. Mais derrière la glace sans teint, c'est toute la brigade criminelle qui ne le quitte pas des yeux. Car cet homme est le suspect numéro 1 d'une mystérieuse affaire de meurtre. Un jeune étudiant massacré de 11 coups de couteau il y a plus de 20 ans. L'interrogatoire commence. Rapidement, l'homme est mis sous pression. Va-t-il enfin craquer et révéler son lourd secret ? C'est l'épilogue d'une affaire hors norme qui aura tenu les enquêteurs en haleine pendant un quart de siècle. Tout commence au début de l'été 1994, à Belfort. C'est dans ce quartier résidentiel que vit la famille Dietrich. Paul est banquier et Rolande, son épouse, est femme au foyer. C'est ici qu'ils ont élevé leurs 2 garçons, Sylvain et Stéphane.
La famille Dietrich, c'est une famille très unie.
Pascal Chevillot, journaliste à l'Est Républicain.
C'est vraiment des gens qui s'aiment beaucoup, qui passent beaucoup de temps ensemble.
Je vois pas une soirée.
Sylvain Dietrich, frère de la victime.
Ou un début de matinée où on s'embrasserait pas pour se dire bonsoir ou bonjour le matin.
Il y a beaucoup d'amour.
Sylvain est l'aîné. Il a 31 ans, il travaille à Paris. Stéphane, le cadet, a 24 ans. Et il est sur le point de prendre son envol lui aussi. Cet été-là, après être sorti major d'une grande école de commerce, il est de retour chez ses parents pour les vacances. Et comme à chacune de ses visites, c'est toujours un immense bonheur de se retrouver en famille.
Il n'avait pas pris de vacances depuis 2 ans et demi. Et là, il va partir en vacances, il est content, il est heureux.
Des vacances bien méritées. Stéphane a d'ailleurs prévu de partir dans le sud de la France avec son meilleur ami Christophe. Alors, il profite de sa dernière journée en famille avant le départ.
Le 4 juillet, la maman et Stéphane Dietrich jouent à un jeu de société, je crois que c'est des dames, et le téléphone sonne.
Il reçoit un appel d'un de ses amis de l'époque qui le contacte. Est-ce que tu peux te libérer aux alentours de 22h et je voudrais te voir un petit moment. Mon frère qui ne doit pas sortir à ce moment-là, il dit à mes parents, je vais sortir, Christophe va passer.
Comme prévu, le jeune homme l'attend en voiture devant la maison. Stéphane ne compte pas s'absenter longtemps. Pour preuve, il ne prend pas ses clés.
En partant, Stéphane Dietrich a dit à sa maman, je m'en vais pour 15 minutes, une demi-heure au maximum.
Puis ben, les minutes passent. Alexandra Bach, amie de la famille Dietrich.
Puis elle regarde l'heure, mais elle dit, mais ça fait plus de 20 minutes. Parce que Stéphane, 20 minutes, c'est 20 minutes. C'est quand même bizarre.
Et la soirée commence à être longue. Les minutes, les heures s'écoulent.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
Et en fait, elle a toujours aucune nouvelle de son fils et elle a aucun moyen de le joindre.
Ça n'est jamais arrivé. Donc, elle est dévastée.
Madame Dietrich passe une très mauvaise nuit. Au petit matin, elle se précipite dans la chambre de son fils et il n'est toujours pas rentré. Elle imagine le pire. Lui serait-il arrivé quelque chose ?
Elle a d'abord commencé par appeler tous les hôpitaux de la région pour savoir si éventuellement elle n'aurait pas un enfant qui ressemble au signalement de son fils.
Elle appelle et elle n'a aucune réponse à ce niveau-là. Personne du nom de son fils n'a été enregistré dans les hôpitaux. Donc, deuxième étape, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle son meilleur ami. Son meilleur ami, c'est qui ? C'est Christophe.
Christophe Blard, qui est finalement la dernière personne à avoir eu un contact avec Stéphane.
Henri Volkovitch, ami de la famille Dietrich.
Et elle lui dit, qu'est-ce que vous avez fait hier soir ?
Et ce que raconte à ce moment-là Christophe, c'est qu'il est bien venu chercher Stéphane, qu'ils sont allés se balader et qu'ensuite il a déposé Stéphane à sa demande à la fête foraine, une fête foraine qui est un petit peu à l'extérieur de Belfort, et que depuis le moment où il a laissé là, il n'a aucune nouvelle non plus.
Stéphane aurait donc disparu à la fête foraine. Aussitôt, Roland se rend au commissariat pour signaler sa disparition.
À 10h15, elle est entendue par un fonctionnaire de police.
Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon.
Et elle raconte effectivement que son fils, depuis 22h la veille au soir, n'est pas rentré à la maison et elle s'en inquiète.
Il y a un policier qui lui dit « Mais madame, il a quel âge ?» Alors il dit « Il vient d'avoir 24 ans ». Alors il lui rit au nez en disant « Mais il est majeur, il est parti voir une copine ou il est parti s'amuser ». Et là, elle dit « Non, je crois que vous ne prenez pas vraiment conscience que mon fils me prévient toujours quand il s'absente ».
Et pendant cette audition, Rolande, la maman de Stéphane, laisse un petit peu traîner ses oreilles ce jour-là au commissariat et elle surprend des bribes de conversation entre les policiers qui parlent de quelque chose d'assez inquiétant. La découverte d'un cadavre dans la région de Belfort.
2 heures plus tôt ce matin-là, à 7h30, la police reçoit un coup de fil anonyme. Un homme aurait découvert un corps. Il se trouverait dans un bosquet au Bois Joli, tout près de Belfort. Une équipe se rend immédiatement sur place.
En fait, c'est une scène d'horreur que découvrent les policiers de Belfort en débarquant à cet endroit parce que le corps porte de nombreuses traces de coups, visiblement portées à l'arme blanche. Donc on est quand même dans un bain de sang dans ce sous-bois.
Pour les enquêteurs, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Ils ont affaire à un meurtre. Aussitôt, ils gèlent la scène de crime et procède aux premières constatations.
Il s'agit d'un jeune homme, entre 20 et 25 ans, frêle, pas très costaud, allongé, en position de chien de fusil.
Et surtout, il constate que le corps est en partie dénudé, la chemise est légèrement remontée.
Ce qui peut paraître étonnant également, c'est qu'il est en slip, avec son short positionné à quelques mètres. Et sur les jambes, on retrouve une branche ensanglantée, posée sur les jambes.
Un corps lardé de coups de couteau, à moitié dévêtu. Les enquêteurs sont intrigués.
On est dans un bois, il y a de nombreux détritus, il y a des marquages au sol de stationnement, on suppose un lieu de rencontre.
Une rencontre amoureuse ou une bagarre qui aurait mal tourné ? À ce stade, toutes les hypothèses sont possibles. Les enquêteurs doivent maintenant identifier ce jeune homme. Or, il n'a pas de pièce d'identité sur lui. Et un individu retrouvé assassiné, c'est rare dans la région. Au commissariat où Madame Dietrich vient d'arriver, les policiers ne parlent que de cette découverte macabre.
Et là, cette maman, elle a comme un sixième sens. Elle sent très vite que peut-être, cette histoire de cadavre découvert pourrait être mise en relation avec la disparition brutale et inexpliquée de son fils la veille au soir.
Alors, elle interroge les enquêteurs pour savoir comment était habillé l'homme retrouvé le matin même au Bois Joli. Les réponses qu'elle obtient lui glacent le sang. Pour en avoir le cœur net, Roland est conduite à la morgue. La mère de famille est terrorisée à l'idée qu'il puisse s'agir de son fils.
Donc, elle appelle son mari qui vient la rejoindre au commissariat et ils doivent reconnaître le corps. une image assez terrible puisqu'il est dans une housse en plastique avec une fermeture éclair. On ouvre la fermeture éclair. Et elle découvre le corps de son fils.
Roland et Paul sont anéantis. C'est bien Stéphane, mort dans des conditions effroyables. Un ami de la famille, Yves, est présent à leur côté pour affronter cette terrible épreuve.
Ah, j'en garde un sacré souvenir, parce que quand on était à la morgue, elle m'a montré les coups de couteau les plus hauts. De le voir allongé dans le cercueil, ça te retourne. Hein.
Yves Poirier, ami de la famille Dietrich.
Ce qu'il disait, qui c'est qui a pu faire du mal à mon gosse comme ça? C'est pas possible. Mon pauvre petit, elle lui caressait le front. Tout.
Les parents de Stéphane doivent maintenant annoncer à leur fils aîné la mort de son petit frère dont il est si proche. Sylvain vit à Paris et ils n'ont pas le courage de le prévenir par téléphone. Alors, Roland demande à un ami de le faire.
C'est en rentrant à mon bureau que j'écoute mes messages et le message de Mme Dietrich me dit « Henri, ils ont tué mon petit. » C'est tout ce que j'entends. Donc j'appelle Mme Dietrich qui était en pleurs et qui me dit « Henri, Stéphane est mort. Je ne peux pas prévenir Sylvain. Je vous demande de le faire. Vous-même, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Donc j'ai appelé une amie proche de Sylvain et je lui ai dit « Voilà, il faut qu'on lui annonce la terrible nouvelle, quoi. »
Ils me disent « Écoute, il est arrivé quelque chose de grave à Belfort. Ton frère, à la fête foraine, il y a peut-être eu une bataille, une bagarre. » Moi, je dis « Bah, il est à l'hôpital, il est blessé. »
Non, 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 Stéphane n'est pas à l'hôpital. C'est fini, Sylvain. Il a été assassiné. »
Quand je réalise ce qui est arrivé avec l'assassinat, toute une vie, toute une famille, tout le monde, tout bascule. Et c'est horrible, c'est horrible.
Sylvain est sous le choc, mais il n'a plus qu'une idée en tête. Comprendre ce qui a bien pu arriver à son frère Stéphane cette nuit-là. Pour la police de Belfort, c'est une incroyable enquête qui commence. Elle va leur réserver de nombreuses surprises et surtout, il faudra des années d'investigation avant qu'ils ne puissent résoudre cette affaire hors norme. Dès le départ, les policiers se plongent dans la vie de la victime à la recherche d'un indice qui pourrait les mettre sur une piste. À entendre la famille et ses proches, Stéphane était apprécié de tous.
Stéphane, il fait 1m70.
Alexandra Bach, amie de la famille Dietrich.
Très fin. Beau garçon, toujours bien habillé. Il aime bien rigoler.
Il est aussi très prévenant auprès de mes parents.
Sylvain Dietrich, frère de la victime.
Auprès de moi-même. C'est une belle personne et il le fait vraiment par plaisir. Il est heureux de rendre heureux les autres. Moi, j'avais un frère en or.
Stéphane serait donc un jeune homme sans histoire. Mais ce portrait un peu trop lisse interpelle les enquêteurs. Et ils s'interrogent. Pourquoi s'est-il rendu cette nuit-là dans ce bois? Stéphane ne cacherait-il pas une vie secrète qui pourrait expliquer sa rencontre fatale? Alors ils poussent un peu plus loin leurs investigations.
Stéphane Dietrich, c'est vraiment tout le contraire de la racaille.
Pascal Chevillot, journaliste à l'Est Républicain.
C'est quelqu'un qui est bien intégré, ne gravite pas du tout dans des milieux où il pourrait connaître des problèmes, quels qu'ils soient, que ce soit d'argent, de drogue ou autre.
Et Stéphane buvait très modérément. Son plaisir à lui, c'était d'apprendre, et toujours d'apprendre.
Stéphane Dietrich est un étudiant qui est inscrit en école de commerce.
Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon.
Il finira d'ailleurs major de cette école de commerce en 1994, quelques jours justement avant son décès.
Stéphane, c'est quelqu'un qui, de par sa réussite, aurait pu susciter quelques jalousies. Mais de là à qu'une personne puisse lui arracher la vie, c'est inconcevable.
Au cours des auditions, la police découvre un jeune homme sérieux à qui tout réussit. Et rien dans sa vie ne permet d'établir un lien avec le crime. on ne lui connaît aucun ennemi. Alors, elle espère en apprendre davantage en interrogeant son meilleur ami, Christophe. Ils partagent tout depuis le lycée, ils ont passé la soirée ensemble avant sa mort et ils devaient partir tous les deux en vacances.
Christophe, évidemment, il est dans tous ses états.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
Stéphane, c'est son ami d'enfance, c'est son meilleur copain, et donc on peut imaginer son désarroi, sa peine.
Et voici comment Christophe décrit la soirée qui a précédé le drame. Comme convenu au téléphone avec Stéphane, il est venu, dit-il, le chercher en voiture à 22h pour finaliser les derniers préparatifs de leurs vacances.
Christophe Blain dépose Stéphane Dietrich devant une agence bancaire où a lieu un retrait de 500 francs.
Ensuite, il va expliquer qu'il a déposé, à la demande de Stéphane Dietrich,
Julien Damy-Lecoz, avocat de la Défense.
Celui-ci, proche de la fête foraine aux foratries, parce qu'il a des choses à faire. Stéphane Dietrich n'est pas plus précis que ça.
Christophe lui demande s'il doit rester l'attendre. Et là, Stéphane lui a répondu que c'était pas la peine, qu'il se débrouillerait.
Les deux amis se donnent rendez-vous le lendemain matin. Christophe part de son côté et dort à l'appartement de sa petite amie qui est en vacances.
Le lendemain, il a procédé à la vidange de son véhicule parce qu'ils avaient prévu de partir dans le sud de la France, donc il y a quand même quelques kilomètres.
Donc effectivement, les collègues, forts de ces informations, donc, font les vérifications d'usage. Tous les éléments fournis par Christophe Blain sont réels.
Face aux enquêteurs, Christophe ne peut rien dire de plus. Il est surtout dévasté par la mort tragique de son ami et il s'en veut de l'avoir laissé ce soir-là. Stéphane a été retrouvé sauvagement assassiné. Qui a bien pu commettre ce crime effroyable? Et Stéphane connaissait-il son agresseur? Lors de son audition, Christophe a livré une information capitale. Il aurait déposé Stéphane à la fête foraine. C'est le point de départ de toute l'enquête.
Cette histoire de fête foraine intrigue au plus haut point les policiers parce que c'est là où il disparaît, c'est là où on n'a plus de nouvelles de Stéphane jusqu'à la découverte le lendemain de son corps à l'extérieur de la ville.
Et c'est ainsi que les enquêteurs de l'époque se rendent à la fête foraine du Foratry le jour même et essaient d'obtenir des témoignages des forains présents.
Pour essayer de voir si quelqu'un a vu Stéphane Dietrich. Donc ils ont sa photo avec eux et ils l'emmènent, ils le présentent à tous les forains.
Manège après manège, les policiers montrent la photo de Stéphane. Mais ils se heurtent à un problème de taille. La communauté des forains est un monde à part et les langues ne se délient pas facilement.
Les policiers de Belfort vont essayer d'enquêter discrètement dans ce milieu des forains où la loi du silence parfois règne en maître, où il y a des clans, où il y a des choses un petit peu parfois inavouables.
Mais les proches de Stéphane prennent aussi les choses en main et mènent leur propre enquête.
De mon côté, je me rends aussi sur la fête foraine et je leur montre la photo. Je dis, vous êtes très famille. Vous pouvez comprendre par rapport à un frère qu'on attend de savoir si vous l'avez vu. Dites-nous si vous savez quelque chose. Et personne ne l'a vu.
Les policiers ne sont pas plus avancés. Mais le jour même de leur visite à la fête foraine, un premier élément donne de l'épaisseur à cette piste. Un témoin anonyme appelle en effet le commissariat de Belfort et fait une révélation fracassante.
Et là, coup de théâtre, il y a une femme qui raconte qu'elle a vu deux forains, deux figures du milieu des manouches du secteur, jouer du couteau, un peu alcoolisé visiblement, et après elle aurait entendu dans la nuit un cri déchirant, un cri horrible.
Et elle pense qu'on a tué mon frère, et que c'était suite à une rixe entre deux forains. À ce moment-là, pour la police, tout concorde. On a deux forains qui jouent avec un couteau, on a une foraine qui dit avoir entendu des cris, on a une victime, Stéphane Dietrich, qui a été déposée à la fête foraine, tout concorde.
Pour les enquêteurs, Stéphane Dietrich aurait pu être mêlé à une bagarre avec ces deux forains. Alors ils veulent à tout prix entendre cette femme et la convoquent pour l'interroger. Elle explique avoir souhaité garder l'anonymat par peur des représailles. Mais face aux policiers, elle raconte tout.
Elle parlait de deux forains dans son appel anonyme et là, elle va aller un petit peu plus loin encore en livrant les noms de ces deux forains. Et donc, parmi ces deux forains décrits par ce témoin, il y en a un qui intéresse tout particulièrement les policiers. C'est un type d'une certaine carrure qui est assez connu dans le milieu des forains, connu pour être ce qu'on appelle une grande gueule.
Il se vante régulièrement, toujours dans les soirées alcoolisées, d'être l'auteur du meurtre.
Pour la police, c'est sûr, ils ont quelqu'un qui est susceptible d'avoir tué Stéphane Dietrich.
À partir de là, l'enquête s'accélère. L'homme a un profil qui pourrait correspondre au tueur. Réputé bagarreur, il a un couteau. Quant au mobile, ce serait l'argent. L'argent que Stéphane a retiré le soir de sa mort et qui n'a pas été retrouvé.
Peut-être effectivement, mauvaise rencontre, quelqu'un qui aurait agressé.
Sylvain Dietrich, frère de la victime.
Est-ce qu'ils ont été suivis ?
Donc la piste de l'agression crapuleuse pourrait tenir.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
Un meurtre où, essayant peut-être de défendre son billet de 500 francs, Stéphane aurait été sauvagement assassiné et abandonné dans les sous-bois.
Les policiers veulent mettre la main sur le suspect, mais l'enquête se corse. Comme souvent chez les forains, il va d'une fête à l'autre et il a déjà quitté la région. En élargissant les recherches, il retrouve sa trace. Mais lorsqu'il le localise enfin, c'est la douche froide.
Les policiers vont identifier ce forain et donc ils vont se rendre dans la famille de ce forain. Et là, c'est la surprise.
Au moment de cette identification, le forain s'est suicidé. Donc effectivement, les enquêteurs sont troublés.
Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon.
Hein, ça laisse à penser que peut-être il avait quelque chose à se reprocher qui a conduit au suicide.
L'enquête prend un tour nouveau. Ce forain aurait-il été pris de remords suite à ce terrible drame ? C'est en tout cas ce que semble prouver un indice retrouvé chez leur suspect.
Ce forain a laissé une lettre. « Je lègue mes biens à mon frère et à ma sœur. Désolé pour ma dernière grande connerie. » Et dans ce petit mot, il y a évidemment un mot qui résonne plus que les autres dans l'esprit des enquêteurs, c'est « la dernière grande connerie ».
Que faut-il entendre par « dernière grande connerie » ? Le meurtre de Stéphane ? Cette lettre d'adieu pourrait faire office d'aveu et elle conforte l'hypothèse d'une agression qui aurait mal tourné entre la victime et ce forain. Mais les policiers ne se contentent pas de cette version. La femme a désigné un deuxième suspect, le seul à pouvoir confirmer leurs soupçons.
Les collègues vont s'acharner, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas en rester là. Ils vont vouloir entendre effectivement ce fameux camarade de manège. Il est entendu.
Lui nie toute implication, mais il reconnaît que la personne qui s'est suicidée s'est vantée à plusieurs reprises d'avoir tué le gadjo. Voilà.
Un gadjo dans l'argot manouche, c'est-à-dire un mec, un gars.
Mais est-ce réellement de Stéphane dont il parlait ? Sans preuve matérielle pour étayer cette piste, difficile de l'affirmer. D'autant que le principal suspect a emporté son secret dans la tombe.
On reste dans l'incertitude de l'hypothèse d'un auteur forain, auteur du meurtre donc de Stéphane Dietrich. Ça reste quelque chose d'irrésolu.
Ça reste une énigme encore totale.
Deux semaines après le début de l'enquête, les policiers sont dans l'impasse. Alors, ils espèrent que l'autopsie leur permettra d'en apprendre davantage sur les circonstances de la mort de Stéphane. Et les résultats sont saisissants.
En fait, ce qui interpelle les enquêteurs, c'est l'extrême violence du crime.
Stéphane Dietrich est mort suite à 11 coups de couteau, dont certains sont mortels.
Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain.
Vise la région du cœur. avec une lame qui a créé une plaie d'une profondeur de 16 cm.
Stéphane a été visé en plein cœur et la profondeur des plaies ne laisse pas de place au doute. Il a fait face à un meurtrier déterminé et bien décidé à l'éliminer. Et ça n'est pas tout.
L'autre élément important, c'est le fait qu'il n'a pas de traces de défense. Comme il n'a pas de traces de défense, soit il connaissait son agresseur, soit il a été surpris par les premiers coups de couteau.
Le fait de ne pas trouver de marque de défense laisse supposer qu'effectivement, la victime était en confiance.
Stéphane aurait donc été agressé par surprise. Peut-être même connaissait-il son meurtrier. La thèse de la rixe qui aurait mal tourné dans le milieu des forains n'est plus la seule piste plausible. Mais alors, le véritable assassin serait-il toujours dans la nature ? Nous sommes mi-juillet, 10 jours après la mort de Stéphane. La famille vit un nouvel épisode éprouvant, l'enterrement. Un moment particulièrement difficile, car son meurtre reste un mystère. Pour tous ses proches, le deuil est impossible tant que la police n'aura pas interpellé son meurtrier.
Je pleurais et j'étais bouleversée.
Alexandra Bach, amie de la famille Dietrich.
Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Enfin...
C'est dur, hein? C'est très très dur.
Henri Volkovitch, ami de la famille Dietrich.
Et Stéphane, c'était le début de sa vie quand même. On pouvait vraiment imaginer une belle vie pour ce jeune homme, vraiment.
L'église Saint-Joseph, où les obsèques se déroulent, est pleine à craquer.
Sylvain Dietrich, frère de la victime.
C'est très émouvant de voir d'être soutenu, parce que ça veut dire que grande partie de Belfort est là. Et en même temps, il y a tellement de monde que de l'église jusqu'au cimetière, il y a une marche qui est faite derrière le cercueil de mon frère.
Les policiers ne s'en doutent pas un instant, mais parmi cette foule immense se trouve en fait l'assassin de Stéphane. Le lendemain de l'enterrement, l'enquête connaît un véritable rebondissement. Un témoin inattendu se présente au commissariat et il a une révélation à faire. Il ne connaît pas la victime, dit-il. Il s'est rendu à la cérémonie pour manifester son soutien à la famille. Mais là, il a été choqué par la présence d'un homme bien connu du milieu homosexuel de Belfort.
Il dit qu'il fréquente les milieux homosexuels et lors de l'enterrement, il a aperçu une personne à la réputation sulfureuse. Quelqu'un qui a l'habitude de s'habiller tout en cuir et qui aurait, d'après lui, la réputation de jouer avec un couteau pendant ses ébats sexuels.
Ce témoin va encore plus loin dans sa déclaration. D'après lui, certains bruits circulent au sein de la communauté homosexuelle de Belfort et il pense détenir une information capitale qui pourrait tout changer.
Qu'est-ce qu'il va dire, ce témoin? C'est que lui-même, appartenant à la petite communauté gay de Belfort, assez discrète, va raconter que Stéphane lui-même appartenait à cette communauté.
Pour les enquêteurs, cette révélation donne une nouvelle direction à l'enquête. Stéphane serait-il homosexuel? Aurait-il mené une vie secrète qui l'aurait amené à croiser cet homme à la réputation sulfureuse? Les policiers commencent à l'envisager. Dès le départ, ils ont été intrigués car le corps de la victime était en partie dénudé et le lieu de la scène de crime leur paraît tout aussi troublant.
Il y a quand même quelque chose qui interpelle les enquêteurs depuis le début, c'est l'endroit où on a découvert le corps.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
C'est un endroit qui s'appelle le Bois Joli.
Le Bois Joli est un endroit qui est réputé des Belfortins pour être un lieu de rencontre homosexuel, à l'atmosphère assez hard. On est plutôt dans le cuir sadomasochiste.
Ce nouveau témoignage pourrait venir confirmer les premières suppositions de la police judiciaire. Et une hypothèse prend forme concernant la nuit du drame.
Le scénario le plus plausible à ce stade-là, c'est que Stéphane se soit rendu discrètement dans ce lieu de rencontre au Bois Joli et fait la rencontre de ce fameux personnage qui avait tendance à jouer du couteau lors de séances sexuelles un petit peu extrêmes et qui a eu après une agression très violente au couteau et qu'on ait retrouvé le lendemain le corps de Stéphane à moitié dévêtu dans ce lieu de rencontre.
Cet homme qui menace d'un couteau ses partenaires lors de jeux sexuels est un suspect potentiel. Mais il est très discret et il ne dévoile jamais son nom. Alors les enquêteurs misent tout sur sa réputation dans le milieu gay. Il est certainement connu dans la région. Quelqu'un l'a sans doute déjà croisé et pourrait l'identifier. Pour étayer cette hypothèse, les enquêteurs se penchent sur la vie sexuelle de Stéphane. Peut-être la clé de cette énigme.
La police va vérifier si éventuellement Stéphane Dietrich n'a pas une vie cachée. Une vie où il fréquente la vie nocturne, la vie homosexuelle. Donc on va explorer cette piste en essayant de retrouver des membres de la communauté homosexuelle pour les interroger, pour leur demander s'ils connaissent Stéphane Dietrich.
Les policiers vont prendre une photo de Stéphane et de Besançon à Belfort, en sillonnant l'Alsace et autres, ils vont faire une démarche auprès de tous les clubs gays, mais aussi libertins. Personne n'a vu ce jeune homme.
Mais les enquêteurs ont des doutes. Car à l'époque, le milieu homosexuel est difficile à infiltrer et les confidences sont rares.
On est quand même en 1994. Crier sur les toits à Belfort que vous êtes homosexuel peut vous attirer des remontrances, des regards.
On est dans une petite ville vraiment de province et les policiers ont un petit peu de mal à avancer dans leur enquête dans ce milieu parce qu'on est un petit peu en eau trouble, on reconnaît des choses sans le reconnaître. En fait, tout ça est quand même assez flou.
Puis viennent des témoignages.
Émilie Pou, journaliste à France Bleu Belfort.
Qui disent que Stéphane Dietrich était peut-être homosexuel.
Beaucoup de gens sont interrogés.
Pascal Chevillot, journaliste à l'Est Républicain.
Qui pense avoir vu Stéphane Dietrich dans des soirées homosexuelles, mais visiblement, on n'en est pas sûr. Donc, ça tourne vraiment à la rumeur.
Des bruits circulent, mais rien de concret. Alors les enquêteurs veulent en avoir le cœur net et ils questionnent les proches de la victime.
Pour moi, Stéphane, il n'est pas gay.
La police ne comprend pas qu'un jeune qui vient d'avoir 24 ans, pour eux, en quelque sorte, il aurait dû être marié, avoir des enfants, une vie stable et tout. Non, il ne fonctionnait pas comme ça, Stéphane. C'était quelqu'un qui était quand même, dans un premier temps, plutôt tracassé sur la réussite de ses études que vraiment se réaliser sentimentalement tout de suite.
Il n'y avait pas au sein de cette famille
Claire Doublier, avocate des parties civiles.
Un tabou de l'homosexualité. Si Stéphane avait eu une relation amoureuse, forcément il l'aurait su.
En parallèle, les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour mettre la main sur cet éventuel suspect aux pratiques sexuelles extrêmes. Mais encore une fois, c'est l'échec.
En fait, c'est un peu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. En fait, cet homme-là, on en a entendu parler, mais finalement, personne n'est en mesure de l'identifier.
Et rien, rien, absolument rien.
Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon.
N'amène à identifier l'auteur de ce crime, absolument rien.
La police ne le retrouvera jamais.
Après des mois d'enquête dans le milieu forain, puis au sein de la communauté homosexuelle de Belfort, les pistes restent en suspens. Les mois défilent et rien ne se passe. Puis, les années s'écoulent et l'espoir s'amenuise. Le meurtre de Stéphane demeure un mystère. En 2001, 7 ans après la mort de Stéphane, il n'y a toujours aucun suspect à l'horizon. Le juge en charge du dossier clôt l'instruction et rend un non-lieu. Le meurtre de Stéphane risque de rester impuni à jamais.
Ça, pour nous, c'est inadmissible.
Sylvain Dietrich, frère de la victime.
Inadmissible. On a arraché la vie à quelqu'un. Où est la justice de notre pays? Qu'est-ce qu'elle fait?
C'est pas supportable.
Alexandra Bach, amie de la famille Dietrich.
On sait pas qui c'est, on sait pas si on le côtoie, on sait rien. Est-ce qu'un jour il va récidiver? Ça fait froid dans le dos.
Une enquête au point mort, un assassin toujours en liberté, c'était sans compter sur la détermination de Sylvain.
À ce non-lieu, ça nous a, je dirais, démultiplié notre force. Et on est parti pour combattre et pour trouver la vérité.
Il y a une association qui a été créée.
Henri Volkovitch, ami de la famille Dietrich.
En mémoire à Stéphane Dietrich, très importante, tout part de là.
Très vite, l'association fait parler d'elle, au point que la presse s'empare de l'affaire. Les journaux locaux titrent sur ce meurtre énigmatique et les médias s'emballent. Sylvain enchaîne les plateaux télé pour sensibiliser la France entière sur la mort tragique de son frère.
Et ça dépasse la France, puisqu'il y a des gens qui nous écrivent de Suisse, de Belgique, du Maroc. Je me dis, il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose et qui peut témoigner.
Peut-être qu'un jour, quelqu'un, quelque part, parlera. Vous avez aussi beaucoup de gens qui refusent de témoigner à la police.
Et ça, l'espoir, il est total. Il est vraiment total.
La mobilisation des proches ne s'arrête pas là. Ils sont sur tous les fronts.
Donc on se bat, on continue. Et puis, vous savez, on a tous des passions dans la vie. Et tout gamin, moi, c'était pas le sport, mais c'était chanter. Et je me dis, on pourrait organiser des concerts, ce qui ferait que Stéphane, son nom, le combat, ne tomberait pas dans l'oubli.
Sylvain met son plan à exécution. Il organise des dizaines de concerts et à chaque fois, il monte sur scène pour honorer la mémoire de son frère. À chaque événement, Sylvain distribue des centaines de flyers qui rappellent les grandes lignes de l'affaire pour susciter d'éventuels témoignages. Et un beau jour...
Il y a un Belfortin qui, au moment du déménagement d'une épicerie d'un de ses amis, regarde le flyer
et il dit « Tiens, c'est quoi ça ?» Et son copain lui dit « C'est l'association des amis de Stéphane Dietrich. Tu sais, l'affaire Dietrich. D'ailleurs, je viens de voir une émission, c'est bizarre cette affaire. » Et les deux commencent à parler.
Il y a quelque chose qu'il chiffonne dans toute cette histoire.
Ça lui rappelle quelque chose en fait qui l'a marqué dans sa vie et ça lui fait tilt dans sa tête.
Nous sommes en septembre 2014, 20 ans après la mort de Stéphane. En découvrant le flyer, cet homme est interpellé par la date du crime. Cela lui rappelle un très mauvais souvenir. Une intuition renforcée lorsqu'il tombe sur une émission de faits divers consacrée à l'affaire Stéphane Dietrich. Dans le film, il remarque surtout une photo, celle d'un homme appelé Patrick.
Il tombe sur quelque chose qui un peu le cloue à sa chaise, c'est-à-dire qu'il voit témoigner quelqu'un qui est présenté comme un ami proche de Stéphane à l'époque, mais qui est flouté.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
Et là, ce garçon reconnaît sans aucun doute possible quelqu'un de sa connaissance. C'était son pion, le surveillant du collège à l'époque où il était en troisième.
Devant sa télé, cet homme pense que le fameux surveillant qu'il reconnaît à l'écran pourrait bien être lié au meurtre de Stéphane. Alors il se rend à l'adresse de l'association qui se trouve être le domicile de Madame Dietrich.
Madame Dietrich sort, il lui dit « Écoutez, madame, j'ai regardé l'émission par rapport à votre fils. »
Et l'ancien collégien fait alors une révélation fracassante.
Il lui dit, mais est-ce que ce fameux Patrick qui apparaît dans les reportages télé, qui est flouté, est-ce qu'il s'appellerait pas Christophe Blin ?
Elle répond oui, parce que le nom a été changé.
Elle lui dit, Madame Dietrich, cet homme, lorsque j'étais au collège, est venu me voir et m'a demandé si je peux tuer quelqu'un. Je pense que cet homme me demandait de tuer votre fils.
Madame Dietrich est sous le choc. Car si ce témoin ne se trompe pas, Christophe Blin, le meilleur ami de Stéphane, pourrait être lié au crime. Aussitôt, le jeune homme se rend au commissariat.
Il nous explique comment Christophe Blin, surveillant donc au collège Vauban...
Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon.
L'a sollicité, l'a approché en lui disant « Écoute, est-ce que pour 10 000 francs, tu serais prêt à tuer quelqu'un ?»
Pour les enquêteurs, c'est un incroyable rebondissement. Christophe Blin aurait donc tenté de commanditer un crime pour la somme de 10 000 francs, et seulement 3 semaines avant la mort de Stéphane. Mais ça n'est pas tout. D'après l'ancien collégien, Christophe aurait aussi fait cette proposition à un autre de ses camarades de classe que la police convoque immédiatement. Nous avons retrouvé ce témoin capital qui a souhaité rester anonyme.
Non, le commandant, il montre des photos du passé. Et en fait, il montre la photo du surveillant Christophe, que je reconnais directement. Et de là, je lui explique la proposition qu'il m'a faite. Mais il est venu, il a parlé comme ça, il m'a dit « Est-ce que j'étais capable de tuer quelqu'un ?» Moi, à cet âge-là, j'avais 16 ans. Pff, je lui dis « Ouais, bien sûr, je suis capable de tuer quelqu'un. » Je voulais jouer le grand lui, il croyait en fait qu'on était les petits tracas du quartier, là.
Ce garçon d'une quarantaine d'années qui a un petit peu rangé des voitures, à l'époque, il a 17 ans. Et c'est un petit peu le caïd dans la cour d'école, enfin dans ce collège. C'est un petit peu celui qu'on remarque, celui qui a une grande gueule, comme on dit.
Il nous a proposé 10 000 francs. Pour nous, c'était énorme. 10 000 francs, c'était le bout du monde à 16 ans. Nous, on lui demandait un acompte de 5 000 francs pour prendre l'acompte. Moi, je voulais franchement l'arnaquer. Hein.
Christophe ne se doute de rien, mais les deux collégiens jouent le jeu, espérant lui soutirer un maximum d'argent. Le surveillant pense avoir trouvé ses hommes de main. Et c'est à partir de là qu'il leur aurait soumis un plan.
Il a demandé d'aller le tuer, de prendre un couteau, de lui mettre des couteaux dans le ventre et de le laisser pour mort par terre.
Il lui dit « Viens, ça se passera dans un bois. »
Émilie Pou, journaliste à France Bleu Belfort.
Trois ou quatre coups de couteau, ça suffit et c'est fini. Mais il lui donne jamais le nom de la victime.
En fait, il donnait cette proposition, mais moi, j'essayais de savoir pourquoi. Il a jamais donné de détails, il a jamais donné de nom. J'ai jamais su, en fait.
En revanche, Christophe leur aurait fixé une date pour passer à l'acte, le 3 juillet. La veille du meurtre de Stéphane. Et plus l'échéance approchait, plus il devenait insistant.
Puis après, il nous convoque au bureau, dans la salle des pions. Il a commencé à insister. Là, ça m'a vraiment fait peur.
Et Christophe Blin ne se serait pas arrêté là. Il serait même allé dans leur cité pour mettre son plan à exécution.
Ah, quand il vient au Glacis, il est complètement déterminé. Hein. En fait, c'est un quartier qui était chaud, c'est un quartier où il n'y avait pas n'importe qui rentrait. Si, il rentrait, mais en se faisant dépouiller, en se faisant voler leur voiture. Et lui, il est vraiment rentré à l'intérieur. On l'a vu, nous, on lui a dit « avance l'argent ». Il n'a rien ramené, après il est parti. Il a compris qu'on voulait l'arnaquer.
À partir de ce moment, Christophe ne les sollicitera plus. C'était la fin de l'année scolaire, et les collégiens et leurs surveillants ne se croiseront plus jamais. Mais pour la police judiciaire, les témoignages providentiels de ces anciens élèves relancent toute l'enquête.
Ça fait quand même 20 ans que la police se casse les dents sur le dossier Stéphane. Et là, véritablement, la lumière est là, parce que Christophe Blin devient véritablement le suspect numéro un.
Pour les enquêteurs, il reste une question. Qui Christophe voulait-il tuer ? Stéphane ou quelqu'un d'autre ? Pour le savoir, ils doivent pousser un peu plus loin leurs investigations. Alors, dans le plus grand secret, ils passent au crible les 20 dernières années de sa vie. Christophe est devenu agent immobilier. Célibataire sans enfant, il collectionne les aventures. Il commence donc par interroger ses ex-compagnes et elles racontent toute la même histoire.
Au début, c'est le prince charmant. C'est l'homme rêvé. Elles sont sous le charme.
Sylvain Dietrich, frère de la victime.
Il est attentionné, il est gentil. Et quelques semaines après, la machine se grippe. Qu'est-ce qui arrive ? C'est de la possession, c'est de la jalousie. Il va vous appeler, vous harceler au téléphone. C'est des filles qui, quand elles vont au travail, sont apeurées parce qu'il y a une voiture qui arrive derrière elles à toute blinde. Il va faire du pare-choc contre pare-choc.
Ce qu'on découvre, c'est que sous cette air un petit peu de gendre idéal se cacherait peut-être un homme au double visage, en fait.
Un double visage que les enquêteurs n'avaient jamais soupçonné au début de l'affaire. Il s'interroge. Et si Christophe cachait une face encore plus sombre ? Ils entendent ensuite une femme qui a partagé sa vie. Et cette femme dresse un portrait glaçant de Christophe.
Un jour, il séquestre une femme
qui est en pleurs pendant une nuit entière.
Claire Doublier, avocate des parties civiles.
Qui, à un moment donné, va se retrouver avec un blin au-dessus d'elle, avec un énorme couteau et des yeux absolument terrifiants.
Elle a bien vu que Christophe Blin n'était pas dans son état normal, qu'il était jaloux. Il a fallu effectivement qu'elle le calme par des caresses. Voilà, elle l'a apaisé, mais c'est quelque chose qui l'a marqué à vie.
Vu ce profil inquiétant et le témoignage des deux anciens collégiens, Christophe Blin est toujours le suspect numéro un des enquêteurs. Mais faute de preuves, ils ne peuvent compter que sur des aveux. Le 15 décembre 2015, les enquêteurs placent Christophe Blin en garde à vue. Mais s'il est bien l'auteur du crime, va-t-il se décider à parler ou s'en tiendra-t-il à sa première version des faits ? Au début de son audition, les policiers confrontent Christophe à un couple d'amis qui, à l'époque, avaient pointé des incohérences dans sa déclaration. Mais Christophe confirme, il a bien déposé Stéphane à la fête foraine.
Et les enquêteurs lui disent « Non mais attendez, on ne vous croit pas, monsieur Blin. Ça ne va pas, ça ne colle pas, ça ne marche pas. Il reste sur cette version tout le temps. »
Et à ce moment-là, les policiers se disent que ça ne va pas être forcément évident de le faire avouer.
Les enquêteurs n'ont pas de preuves matérielles. Ils doivent donc tout faire pour obtenir des aveux. Sinon, Christophe ressortira libre. Et leur tourne. Alors ils abattent leur carte maîtresse, le témoignage du collégien auprès de qui il aurait commandité un crime 21 ans plus tôt. Christophe ignore ce rebondissement dans l'enquête. Il mise tout sur ce face-à-face.
Cet ancien collégien, en présence des policiers, c'est une scène un petit peu surréaliste.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
Il lui met la pression, il lui dit « Mais oui, souviens-toi, avoue, il faut que justice soit rendue. »
Et là, tout change, tout bascule. C'est-à-dire que Christophe Blin se ferme totalement.
Christophe change d'attitude, mais il n'avoue rien. Alors les enquêteurs mettent fin à la confrontation. Ils font sortir l'ancien collégien sans savoir si leur stratégie a payé.
Et lorsque je reviens...
Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon.
Je retrouve dans la pièce où a eu lieu la confrontation un Christophe Blin... en pleurs.
Il craque, il demande à ce qu'on arrête la caméra.
Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain.
Le policier qui conduit l'audition refuse, lui donne quelques minutes pour reprendre ses esprits, on rallume la caméra.
Et là, en fait, il nous explique qu'il veut libérer sa conscience, qu'il va tout raconter, que c'est difficile pour lui.
En fait, il va raconter que Stéphane et lui, à l'époque, étaient effectivement très proches, mais que cette relation allait bien au-delà de la simple amitié et qu'il y avait quelque chose de sexuel entre eux.
Pour les enquêteurs, c'est une information capitale. D'après Christophe, les deux amis entretenaient une relation homosexuelle. Pourtant, lors de leur enquête, Christophe Blin leur était apparu comme un hétérosexuel qui enchaînait les conquêtes féminines. Mais le suspect leur raconte comment tout a commencé.
Christophe Blin explique d'abord que ses premiers actes sexuels ont eu lieu à Besançon.
Julien Damy-Lecoz, avocat de Christophe Blin.
Dans un logement dans lequel il était en colocation avec Stéphane Etrich. Et il explique que Stéphane Etrich lui demande d'abord de se livrer à des actes de masturbation. Alors d'abord chacun dans son coin, puis de manière réciproque. Le problème, c'est qu'il met les doigts dans un engrenage qu'il ne pourra pas quitter pendant 4 années.
Christophe révèle aux enquêteurs qu'au départ, il cherchait son identité sexuelle et que très vite, il aurait souhaité mettre un terme à cette relation. Mais il n'avait pas su dire non, et sa vie serait devenue un enfer.
Il explique qu'il était victime.
Émilie Poux, journaliste à France Bleu Belfort.
Et qu'il a été victime d'agressions sexuelles de la part de Stéphane Dietrich pendant 4 ans. Il dépeint Stéphane Dietrich comme un harceleur. Il se dit même son esclave sexuel.
Il dit que Stéphane Dietrich le contraignait, lui imposait des masturbations réciproques. Il parle de 500 masturbations.
Il éprouve un profond sentiment de dégoût. Il explique également qu'il espère qu'à chaque acte sexuel, ce soit le dernier. Il n'est pas homosexuel, il le sait.
Face aux enquêteurs, Christophe avoue avoir tué Stéphane. Il explique que la veille du départ en vacances a été pour lui le déclic. Il redoutait que Stéphane le harcèle encore et c'est là qu'il aurait décidé d'en finir. Et il révèle aussi avoir fixé un rendez-vous à Stéphane ce soir du 4 juillet 1994.
À 22h, il s'arrête devant le pavillon familial. Stéphane se précipite dans son véhicule après avoir laissé sa mère donc, dans le pavillon.
Stéphane Dietrich va d'abord souhaiter se rendre au distributeur pour retirer 500 francs, ce qu'il a fait.
Puis ils repartent et là, selon Christophe, le harcèlement aurait repris.
Il nous déclare que Stéphane l'aurait à nouveau sollicité pour des caresses.
Pour lui, ça a été le moment de trop. Il n'en pouvait plus. Et que c'est à ce moment-là qu'il s'est dit « stop, ça suffit ».
Christophe raconte qu'il part alors à la recherche d'un endroit isolé, dans l'intention d'en finir. Et il se rend au fameux Bois Joli.
Il est en possession d'un couteau. Ce couteau, il l'a acheté l'après-midi même. Il l'a positionné sous le siège de son véhicule.
Christophe demande à son ami de chercher un bosquet pour s'abriter des regards. Et pendant ce temps, il en profite pour glisser discrètement le couteau dans sa poche. En l'attendant, Stéphane se déshabille.
Il va enlever son short, qu'il va plier, qu'il va poser par terre, et il va ouvrir, il va déboutonner sa chemisette, puisqu'il aimait, semble-t-il, qu'on lui caresse le torse. Et là, il va se livrer à un acte sexuel, à un acte de masturbation auprès de Stéphane Dietrich. Et ensuite de cela, il explique qu'il va porter un premier coup dans l'abdomen.
Au moment où le premier coup est porté, Stéphane lui aurait dit « Moi, je t'aimais ».
Vont se succéder 11 coups de couteau.
Et il le tue sauvagement, en fait. Il l'exécute sur place à coups de couteau, en fait.
Christophe le laisse pour mort, à moitié nu. Il explique qu'à cet instant, il est en état de choc. Mais il ne veut pas laisser de traces. Alors il récupère les 500 francs et l'arme du crime. Puis il s'arrête dans un parc et il jette l'argent et le couteau dans une poubelle.
Et ensuite, il se rend au domicile de sa compagne de l'époque et il va y passer la nuit.
Et il nous explique s'être lavé les mains dans le lavabo puisqu'il a cette image de sang dans le lavabo. Et le lendemain matin, il découvre le message de Madame Dietrich qui souhaite être rappelée.
Le 16 décembre 2015, Christophe Blin est placé en détention dans l'attente de son procès. Il vient d'avouer le meurtre de Stéphane et il reconnaît avoir prémédité son geste. Pour les proches, son arrestation est le combat d'une vie. Mais cette annonce les bouleverse.
D'apprendre que c'est lui qui avait tué, alors ouais, c'est un gros choc.
Henri Volkovitch, ami de la famille Dietrich.
C'est une violence extrême parce que un copain avec qui vous devez partir en vacances, quoi. Comment peut-on en arriver là ?
C'est un choc en fait de savoir qu'il était dès le départ sous les yeux de tout le monde. C'est une trahison.
Alexandra Bach, amie de la famille Dietrich.
Moi, sincèrement, je me pose la question comment il a fait durant toutes ces années pour se regarder dans une glace, parce que c'était quand même l'ami de Stéphane. Comment il a fait ?
Christophe Blin est renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat. Il risque donc la perpétuité. Mais lors de ses aveux, il a aussi donné une autre image de la victime. Et si pendant le procès, il parvient à convaincre les jurés que derrière ce profil lisse, Stéphane Dietrich était en fait un harceleur, il pourrait voir sa peine allégée. Le 14 janvier 2019, le procès très attendu de Christophe Blain s'ouvre à Vesoul. Et c'est dans un décor surprenant qu'auront lieu les débats. Le tribunal est en travaux et la cour d'assises s'est installée au parc des expositions de la ville.
C'est quand même un petit peu dans une ambiance surréaliste que s'ouvre ce procès de l'affaire Stéphane, de l'assassinat.
Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers.
24 ans après les faits, 24 ans, c'était l'âge de Stéphane au moment où il a été tué.
La presse s'est mobilisée pour couvrir cette affaire qui secoue la région tout entière. Et 24 ans après les faits, le besoin de vérité est toujours aussi fort chez les proches de la victime.
Pour nous, c'est en quelque sorte rendre hommage à Stéphane et que justice lui soit rendue, simplement.
Sylvain Dietrich, frère de la victime.
Voilà, et que la personne puisse de son côté être privée de sa liberté pendant un certain temps.
Le procès s'ouvre devant le public qui découvre enfin le visage de l'accusé. Son avocat va devoir briser cette image d'assassin qui lui colle à la peau. Et pour cela, il mise tout sur le harcèlement qu'il aurait subi.
L'objectif de l'audience, il est très clair, c'est de faire comprendre à la cour d'assises que Christophe Blain, qui est dans le box, n'est pas un monstre.
Julien Damy-Lecoz, avocat de Christophe Blain.
Stéphane Dietrich est bien la victime ? Il est bien celui qui est mort. Christophe Blain, il est bien l'auteur des faits. Mais il est aussi celui qui a porté ses coups parce qu'il était victime d'agissements à caractère sexuel.
Dans le box des accusés, Christophe Blain prend la parole. Il est en pleurs. Il veut faire comprendre aux jurés qu'il est lui aussi une victime dans cette affaire.
Il va expliquer que lorsque il refusait les actes à caractère sexuel, eh ben celui-ci pouvait le menacer de faire licencier sa mère et donc lui faire perdre son emploi, ce qui serait évidemment catastrophique pour la famille modeste, très modeste, de Christophe Blain.
D'après Christophe, Stéphane serait allé encore plus loin. À la barre, il raconte une anecdote terrifiante.
Christophe ayant voulu rompre à un moment donné, Stéphane l'aurait poursuivi dans une espèce de folle course-poursuite en voiture, pare-choc contre pare-choc.
Ce qui va provoquer chez Christophe Blain une certaine peur.
Cette première journée s'achève dans un climat électrique. Pour Sylvain, ces accusations salissent la mémoire de son frère et c'est pour lui insoutenable.
S'il pouvait le tuer une deuxième, une troisième, une quatrième fois, ça le gêne pas. Humainement, mais c'est insupportable ça. C'est qui ? Il se prend pour qui ?
Mais l'avocate des parties civiles contre-attaque.
Il explique que dans le cadre du harcèlement sexuel dont il serait victime, Stéphane le poursuit en voiture. Ce fait, il est évidemment parfaitement faux.
Claire Doublier, avocate des parties civiles.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un comportement qu'il a, lui, vis-à-vis des femmes avec qui il va entretenir une relation dans les années qui vont suivre.
D'après la famille, Christophe Blain a inventé cette histoire de harcèlement. En fait, il jalousait la réussite de Stéphane et ne supportait pas l'idée qu'il l'abandonne pour une nouvelle vie. Au bout de 5 jours d'audience, la cour se retire. Christophe l'a-t-il convaincu ? N'a-t-il supprimé Stéphane que pour se libérer de son emprise ? Ou est-il un assassin qui a froidement exécuté sa victime de peur qu'elle ne lui échappe ? Ce sera au juré de trancher. Au bout de 4 heures de délibéré, ils ont forgé leur intime conviction. À l'unanimité, ils condamnent Christophe Blain à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Une victoire pour la famille.
Pour nous, c'est pas le nombre d'années qui change la donne, mais c'est vraiment l'aboutissement de tout un combat.
Sylvain Dietrich, frère de la victime.
Mais quelque part, je me dis, la mémoire de mon frère, elle a été honorée. Et il peut maintenant être libéré et partir s'envoler. Chaque jour, je pense à mon frère.
Christophe Blain est incarcéré à la maison d'arrêt de Mulhouse. Il n'a pas fait appel de la décision. la famille de Stéphane Dietrich a livré sa dernière bataille.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.